BFM Business, midi, l'heure H. Stéphane Pedrazzi.
Il est tout juste midi sur BFM Business. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de l'heure H. Aujourd'hui, nous parlerons du projet Hercule qui doit aboutir à la réorganisation de EDF, projet qui mobilise les syndicats du groupe. Ils ont été reçus hier soir à l'Élysée, alors que le PDG de l'entreprise, Jean-Bernard Lévy, lui réclame davantage de temps avant de présenter les modalités de l'opération. Nous parlerons également jeux vidéo à l'occasion de la Paris Games Week. Contrairement aux idées reçues, le jeu vidéo n'est pas réservé aux adolescents. 71% des Français, selon Médiamétrie, affirment jouer à des jeux vidéo, même occasionnellement, pour un chiffre d'affaires annuel qui représente 3 fois celui du cinéma en salle, on le verra. Et puis, on prendra de la hauteur à 36 000 km au-dessus de la Terre, précisément. C'est là, en orbite géostationnaire, que Telsat va installer un nouveau satellite qui nous apportera de l'Internet haut débit dans les avions. Rodolphe Belmer, le patron de Telsat, sera notre invité tout à l'heure à 12h30. Mais tout de suite, on fait le point sur l'actualité à la mi-journée avec Thomas Asporta.
Bonjour Stéphane, beau programme et bonjour à tous. Et Boris Johnson qui va retenter sa chance cet après-midi devant les parlementaires britanniques pour obtenir des élections anticipées au mois de décembre. Il avait échoué hier, hein, vous l'avez vu, obtenir la tenue de ces élections du fait de l'abstention des travaillistes. Et bien leur leader, Jeremy Corbyn, vient d'annoncer qu'il va soutenir aujourd'hui l'organisation d'élections anticipées. La BBC affirme que le scrutin aurait lieu le 11 décembre et hier, les Européens ont approuvé un troisième report du Brexit qui devait avoir lieu après-demain et ce serait finalement au 31 janvier 2020 au plus tard. En France, et en attendant la publication demain de la première estimation de croissance au troisième trimestre, l'INSEE nous dit ce matin que la confiance des ménages est restée stable en octobre, après 9 mois consécutifs de hausse. Cela dit, la confiance des ménages a reculé sur certains indicateurs, comme leur capacité d'épargne ou encore leur situation financière future. Les députés votent aujourd'hui le budget 2020 de la Sécu, un budget marqué par un gros retour des comptes dans le rouge, avec un déficit de 5,1 milliards d'euros l'année prochaine. Les dépenses de santé seront divisées par 2 par rapport à leur progression naturelle. Agnès Buzyn présentera courant novembre un plan de soutien aux hôpitaux. Dans l'actualité des entreprises, Boeing joue gros aujourd'hui face au Congrès américain. Le directeur général de l'avionneur est entendu tout à l'heure par les sénateurs américains, un an jour pour jour après le crash du vol de la compagnie indonésienne Lion Air. Et le directeur de Boeing devrait faire son mea culpa et reconnaître des erreurs pour la première fois depuis le début de la crise du 737 MAX. Dennis Muilenburg va aussi tenter de convaincre que l'avion est redevenu sûr après les améliorations apportées par Boeing. Airbus, en revanche, pourrait rafler un très gros contrat auprès de la compagnie indienne Indigo, plus de 33 milliards de dollars au prix catalogue pour plus de 300 avions de la famille des A320neo. Indigo et Airbus ne commentent pas cette information donnée par Reuters. Du côté des publications, Orange affiche un chiffre d'affaires en hausse de 0,8% au troisième trimestre et ce sont clairement l'Afrique et le Moyen-Orient qui ont porté le groupe avec une croissance de 7,6%. En revanche, la situation est plus compliquée en France avec un léger recul de l'activité, surtout en Espagne où les ventes ont reculé de 2,5% à cause de la guerre des prix. Google paye cher ses efforts de diversification. Le leader mondial de la pub en ligne a vu son bénéfice reculer de 23% au troisième trimestre à cause une nouvelle fois du très forte hausse de ses dépenses, plus 25% sur les 3 derniers mois. Google devrait recruter notamment plus de 20 000 personnes cette année. C'est-à-dire que l'activité se porte toujours aussi bien avec un chiffre d'affaires sur le trimestre de 40,5 milliards de dollars en hausse de 20%. Sinon, l'introduction en bourse du siècle, eh bien, c'est pour dimanche. C'est en tout cas ce qu'affirme Reuters, c'est la télévision saoudienne, pour qui Aramco devrait annoncer ce dimanche 3 novembre le lancement de son introduction en bourse. Pour rappel, on parle d'une opération qui pourrait valoriser l'entreprise autour des 2000 milliards de dollars. Le prix de l'action sera annoncé le 17 novembre et la cotation de Saudi Aramco démarrera le 4 décembre. En attendant, toujours en Arabie Saoudite, eh bien, le pays ouvre les portes aujourd'hui de son fameux Davos du désert, un an après une édition 2018 boycottée de toutes parts en pleine crise, Jamal Khashoggi. Rien de tel cette année, avec notamment le retour des Américains et la présence du secrétaire au Trésor Steven Mnuchin. Seront aussi présents le Premier ministre indien, Narendra Modi, président brésilien Bolsonaro et côté entreprise, les patrons de Blackstone ou encore de SoftBank. L'industrie de la cigarette électronique continue de souffrir. Le leader américain du secteur, la marque Juul, va supprimer des emplois d'ici à la fin de l'année. 500 postes, d'après le Wall Street Journal. Vous savez que la cigarette électronique est dans le collimateur des autorités américaines avec la multiplication des problèmes de santé liés à ces produits. Juul avait déjà annoncé il y a une dizaine de jours la suspension de la commercialisation de certains de ses produits. Et puis pour finir, ça va toujours aussi bien pour SMCP, la maison mère de Sandro, Maje et Claudie Perlot. La croissance des ventes a dépassé les 10% au troisième trimestre et c'est clairement grâce à l'international, hein, plus 24% en Asie-Pacifique, plus 12% en Europe hors France et plus 11% dans la région Amérique. SMCP a ouvert 107 magasins sur les 12 derniers mois. BFM Business, il est bientôt midi 5. On file sur les marchés à la mi-journée. Le CAC 40 est à l'équilibre à 5700 1,31 points, toujours au plus haut de l'année, toujours au plus haut depuis fin 2007. L'euro-dollar recule un petit peu, abandonne 0,14%. 1 euro s'échange pour 1,1082 $.
Merci Thomas. On se retrouve tout à l'heure à 12h30 pour le rappel des titres.
BFM Business, l'heure H. La question du jour.
Le projet de réorganisation d'EDF mobilise les syndicats du groupe. Ils ont été reçus hier soir à l'Élysée, alors que les modalités précises de l'opération n'ont pas encore été présentées par le directeur général de l'entreprise. On en parle avec Karine Berger, administratrice salariée d'EDF et déléguée FNME-CGT. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Les syndicats s'opposent au projet de réorganisation d'EDF. On le rappelle, c'est un projet qui s'appelle Hercule et qui doit aboutir à la scission du groupe avec d'un côté EDF Bleu qui regroupera notamment les activités nucléaires, les barrages et le transport d'électricité et de l'autre un EDF Vert comprenant la distribution et les énergies renouvelables ainsi que le commerce et qui serait quant à lui introduit en bourse. Pourquoi est-ce que vous y êtes opposé ?
Alors déjà, il y a un problème de méthode, c'est-à-dire que ce projet a été bouclé par les directeurs financiers de l'entreprise sans vraiment s'occuper de la question des métiers. Je rappelle quand même qu'à EDF, nos métiers sont ces métiers de long terme et qu'il est difficile de croiser une vision financière de court terme avec une vision industrielle de long terme. Cette vision industrielle de long terme, on ne l'a pas aujourd'hui pour l'entreprise. Donc, c'est mettre un petit peu la charrue avant les bœufs et que de proposer une solution financière qui sera finalement qu'un one shot, c'est-à-dire qu'on fera effectivement une vente d'une partie de l'entreprise, mais qui n'assure en rien sur l'avenir de l'entreprise.
Ça, c'est pour la méthode. Sur le fond, oui. Vous n'êtes pas d'accord?
Alors, sur le fond, on n'est pas d'accord non plus, parce qu'en fait, on se retrouve avec sur le marché actuel, un EDF qui porte les risques du marché, c'est-à-dire que c'est EDF qui finalement, au bout du bout, assure l'équilibre offre-demande sur un bien qui n'est pas stockable. L'électricité, c'est quand même pas tout à fait comme l'eau. Ça ne se stocke pas. Et puis, donc, elle assure finalement cette garantie permanente d'équilibre offre-demande avec ses moyens pilotables. Et puis, de l'autre, on a une... On veut privatiser, parce que c'est pas un autre mot, des activités qui sont quelque part régulées ou subventionnées. Et ça, EDF en a besoin pour pouvoir vivre et pour pouvoir renouveler son parc.
Alors vous parlez de la privatisation de certaines activités, néanmoins dans le projet tel qu'on le connaît aujourd'hui, il y a la renationalisation d'un certain nombre d'activités extrêmement sensibles, et je pense évidemment en premier lieu au nucléaire.
Alors la souveraineté qu'on nous a annoncée, personne n'y croit, même pas les salariés du nucléaire. Je rappelle qu'ils étaient extrêmement mobilisés lors des deux journées de mouvement qu'on a faites, le 19 septembre et le 17 octobre. Donc vous voyez que c'est quand même un message qui n'arrive pas à passer sur la souveraineté de cette entreprise publique. Comment elle va se financer ? Rien. Comment elle va travailler? Quel programme est là? Rien. À part des dictates de on ferme Fessenheim, on ferme à droite et à gauche, on n'a aucun avenir, aucune vision dans cette entreprise. On n'a que de la manipulation de chiffres, de finances à court terme.
On nous dit que la renationalisation du groupe, dans son intégralité, coûterait extrêmement cher et que ce n'est pas envisageable. Vous êtes d'accord?
Non. On pense que c'est possible.
Ça coûte extrêmement cher, 15% d'EDF sur le marché?
Oui, ben c'est possible. Oui, ben le cours de l'action, il s'est quand même bien cassé la figure, donc on peut pas dire que on soit sur un cours faramineux. Non, c'est possible. Nous, d'ailleurs, le projet, puisqu'à la CGT aujourd'hui, on s'efforce à chaque fois d'avoir un contre-projet par rapport à ce qui nous est presque imposé aujourd'hui, puisqu'on n'a pas eu le loisir de le discuter. Et nous, notre souhait, c'est de revenir à un établissement public, industriel et commercial, à un EPIC comme avant 2004. Au temps où l'entreprise investissait et vivait très bien.
On attendait une annonce précise d'ici la fin de l'année. Jean-Bernard Lévy, votre directeur général, devait remettre des propositions concrètes au gouvernement. Il pose maintenant la question de la réforme de la régulation nucléaire comme préalable à sa proposition de réorganisation d'EDF. Est-ce que c'est un vrai problème, une vraie raison, ou est-ce qu'à votre avis, il cherche à gagner du temps?
Non, alors je pense que c'est... On revient à la raison, c'est-à-dire qu'on nous a posé une organisation avant de réfléchir aux régulations. Et je pense que c'est souhaitable de d'abord réfléchir un petit peu à qu'est-ce qu'on veut faire de cette entreprise. Et il nous semble que dans le cadre de la transition énergétique qui est cruciale et qui doit être un enjeu pour l'ensemble des Français, il faut revenir justement à ces questions de transition énergétique. Et dans le cadre, nous, on prône évidemment, vous avez bien compris, un retour au service public et on veut y inclure les questions d'efficacité énergétique.
C'est néanmoins, pour Jean-Bernard Lévy, un petit peu de temps, peut-être, pour négocier davantage avec les représentants syndicaux.
On espère que... C'est en tout cas ce qu'on a demandé au gouvernement hier, quand on était avec les représentants. On a demandé qu'il y ait une véritable concertation qui se fasse, parce qu'aujourd'hui, elle n'a pas eu lieu.
Vous pensez avoir été entendu ?
J'espère. On attend une réponse formelle sous quinzaine, ce qui laissera un petit peu le temps à l'entreprise déjà de vivre un grand moment fort qui sont les élections de représentativité où la CGT espère porter justement cette voie de retour au service public. Et donc on devrait avoir la réponse tout de suite après.
L'autre dossier chaud, j'ai envie de dire, du moment chez EDF, c'est la construction de l'EPR de Flamanville. Hier, le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, a eu des mots extrêmement durs pour parler de cette construction. Il parle d'un échec pour EDF et pour la filière nucléaire française. Il fustige un manque de rigueur inacceptable, je cite ses propos, et demande à EDF de lui fournir un plan d'action dans un délai d'un mois pour remettre la filière nucléaire française à un niveau d'exigence, au meilleur niveau d'exigence. Votre commentaire d'abord.
Alors, mon commentaire, c'est soyons sérieux. Demander un plan d'action en un mois sur un problème qui dure depuis 2006, je vous rappelle aussi que la CGT en 2006 avait dénoncé la plupart des points qui ont été soulignés dans le rapport FOLS, et dans ce rapport, même, il en manque. Il en manque dans ce qui se passe à l'intérieur d'EDF. C'est-à-dire la disparition de la direction de l'équipement, qui était quand même l'architecte ensemblier d'EDF, c'est un point fort qui n'est pas souligné dans le rapport FOLS, et sur lequel nous, on voudrait revenir. Et je pense que, à part ce rapport, il a, en fait, il arrive à un moment où finalement Jean-Bernard Lévy essaye d'en retirer un crédit en disant mais voyez, je suis aux commandes, tout va aller mieux. Nous, on doute parce qu'on a toujours les mêmes éléments depuis 2006 sur la table.
Alors, on va le rappeler, le rapport FOLS dont vous parlez, c'est un rapport d'audit qui a été remis au gouvernement et qui pointe un certain nombre de défaillances. On va rappeler aussi les chiffres. En 2006, a été lancée la construction de l'EPR de Flamanville. Il devait entrer en service en 2012 pour un coût initial de 3,3 milliards d'euros. Aujourd'hui, le démarrage est prévu fin 2022 dans le nouveau calendrier pour un coût qui a été revu à la hausse à 12,4 milliards d'euros. On ne peut pas se satisfaire de ces chiffres.
Non, on ne s'en satisfait pas. Ça, c'est clair, on s'en satisfait pas. Mais je pense que dans le même temps, il y a eu quand même des sacrés changements au niveau de l'industrie nucléaire. Je rappelle quand même que EDF a absorbé Areva NP, que c'était pas rien. Et que d'ailleurs, depuis 2004, depuis le moment où EDF est passé EDF-SA, toutes ces fusions et acquisitions ont quand même coûté 13 milliards d'euros à l'entreprise. Vous ajoutez ça, plus les 22 milliards de dividendes qui ont été perçus par l'État actionnaire, je pense que ça fait beaucoup. Et effectivement, l'entreprise, elle va mal, mais elle va mal globalement. Et je pense qu'il faut aussi avoir du respect pour les salariés du nucléaire. Ils sont 220 000. C'est une vraie filière en France. Et je pense que, en permanence, avoir une actualité qui vise finalement des échecs successifs, ça me paraît pas très constructif, en tout cas.
Est-ce que cet échec n'est pas, quelque part, la démonstration que EDF doit être réorganisé, puisque sous cette forme-là, ça n'a pas fonctionné ? Peut-être pas le projet qui vous est proposé, mais en tout cas, ça appelle peut-être à une réorganisation de l'entreprise.
Je crois qu'il faut surtout voir deux choses en interne EDF. Un, la politique achat qui a été menée, qui a été désastreuse. Et l'autre chose, qui est la politique RH. Et la politique RH a délaissé un petit peu, finalement, l'expertise. Et je pense qu'il faut remettre l'expertise dans le circuit des décisions et ne pas laisser seuls des directeurs qui sont, finalement... qui arrive à la tête des entreprises sans en connaître le métier.
Le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, hier a réaffirmé son soutien à Jean-Bernard Lévy, le PDG d'EDF, malgré l'échec, puisque Bruno Le Maire parle d'un échec de Flamanville. Est-ce que c'est pas un peu paradoxal? Je vais me poser la question différemment. Ça vous, vous êtes choqué que le ministre de l'économie réaffirme son soutien au PDG d'EDF alors qu'il vient d'annoncer que Flamanville est un échec.
Mais je me demande si c'est pas le rapport Foltz qui est là pour asseoir le président Lévy, en fait. Vu qu'il n'y a pas grand-chose de nouveau dans ce rapport. Donc bon, c'est une guerre entre courants dans l'entreprise, je pense qu'elle s'illustre comme ça. Il faut quand même rappeler que ce rapport Foltz a été mandaté par le président Lévy quand même au départ.
Une dernière question, puisque c'est l'actualité sociale de cette fin d'année, la réforme des retraites. On a beaucoup entendu les cheminots, on a moins entendu les salariés d'EDF qui pourtant bénéficient eux aussi d'un régime de retraite spécial qui pourrait être menacé par la réforme.
Ah ça c'est clair, il est menacé par la réforme actuelle. Il est clair qu'on a une action forte qui est prévue après avoir mobilisé un petit peu les salariés autour de ces enjeux. Moi, je rappelle que quand même, ce régime de retraite, il fait partie du package quand on rentre dans l'entreprise. Moi-même, je me rappelle avoir quitté Jacalsom pour rentrer à EDF avec un salaire moindre, mais il y avait tout un package autour qui, finalement, faisait que l'offre était intéressante.
Alors, le gouvernement pourrait supprimer ce régime spécial pour les nouveaux entrants dans l'entreprise dans ce cas ?
Oui, bah, il va procéder comme il a toujours procédé. Je dirais à la SNCF, il fait la même chose. Je dirais à France Télécom, on a eu la même chose. C'est-à-dire qu'on supprime les statuts. Et le statut de l'énergéticien, c'est quand même un statut auquel on tient et qui est le socle du savoir bien faire, parce que je pense que c'est comme ça qu'il faut le lire. Je rappelle par exemple que les entreprises qui sont en concurrence au niveau d'EDF sur la fourniture d'électricité n'ont pas de personnel au statut et délocalisent en Afrique francophone.
Mais par rapport à l'ensemble des Français, qu'est-ce qui justifie aujourd'hui ces régimes spéciaux ? Vous me disiez quand vous avez rejoint l'entreprise, ça faisait partie du package, mais si ce package est modifié dès l'entrée des nouveaux salariés, aujourd'hui comment est-ce qu'on justifie que certaines catégories de salariés aient des régimes de retraite plus avantageux ?
Mais moi, je crois que la notion
fait l'avocat du diable.
Je sais bien, mais je crois que la notion de service public justifie tout ça. À partir du moment où vous avez des agents qui se mobilisent quand il y a un problème, quand ça ne va pas, et je rappelle aussi qu'avec les changements climatiques, on va avoir de plus en plus de problèmes sur les réseaux, avec des gens qui ont besoin d'intervenir, et ils le font avec la notion de service public. Si vous arrivez avec un jeune qui ne pense qu'à son avenir individuel, dans ce genre d'entreprise, ça ne fonctionne pas. EDF est une entreprise qui doit fonctionner en collectif, malgré finalement, les dogmes RH qui proposent et le forfait jour et le télétravail, qui sont peut-être des choses agréables individuellement, mais on en perd un petit peu le sens du travail collectif.
Merci beaucoup, Karine Granger. Je rappelle que vous êtes administratrice salariée d'EDF et vous êtes déléguée FNME-CGT.
Merci.
Un instant, on parlera jeux vidéo sur BFM Business à l'occasion de la Paris Games Week. À tout de suite.
BFM Business, midi, l'heure H. L'invité.
La Paris Games Week, le salon grand public du jeu vidéo en France, ouvre ses portes demain et jusqu'au 3 novembre prochain, édition 2019, marquée par une profonde révolution dans l'industrie du jeu vidéo avec une dématérialisation des jeux, un petit peu similaire à ce qui s'est passé pour la vidéo. On va en parler avec Emmanuel Martin, délégué général du CEL, le syndicat des éditeurs de logiciels de loisirs et organisateur donc de la Paris Games Week. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. On résume parfois le jeu vidéo aux gamers. Vous savez, le cliché de l'adolescent ou du post-adolescent enfermé dans sa chambre et qui joue toute la journée. La réalité, c'est que le jeu vidéo touche un public beaucoup plus large. 71% des Français déclarent jouer même occasionnellement à un jeu vidéo. C'est ce qui ressort d'une enquête Médiamétrie et ça représente tout de même 37 millions de personnes. Le marché est très large.
Oui, c'est vrai que le cliché du loisir pour ados masculins date d'il y a 20 ans. Aujourd'hui, on est à parité homme-femme. L'âge moyen des joueurs, c'est 40 ans. Ce qui fait qu'on a aujourd'hui des familles entières qui jouent, les grands-parents, les enfants et les parents. Le jeu vidéo, aujourd'hui, touche de plus en plus de monde et quasiment tout le monde, vous l'avez dit, 71% des Français jouent occasionnellement.
Alors, le cœur de cible est quand même assez jeune. Le jeu vidéo intéresse 9 jeunes sur 10 âgés entre 10 et 17 ans et on s'imagine assez facilement qu'ils jouent beaucoup plus que leurs parents en termes de fréquence.
Effectivement, dès qu'on va dans les tranches d'âge les plus jeunes, le phénomène est complètement majoritaire, presque unanime. On est sur des taux de pratique au-delà de 90%. On se rend bien compte qu'effectivement, aujourd'hui, la culture du jeu vidéo fait partie intégrale de la culture des jeunes. C'est comme porter des jeans ou aimer la pizza. C'est vraiment, ça définit l'identité des jeunes aujourd'hui.
Comment est-ce que ce public familial de jeux vidéo est accueilli par, j'allais dire, le cœur des gamers, c'est-à-dire les jeunes ?
Le cœur des gamers, il a grandi. Aujourd'hui, il est très souvent en situation d'être parent. Et on a ce qui nous intéresse énormément, c'est-à-dire sur cette génération, notre première génération de parents gamers, de gens qui sont nés avec le jeu vidéo, qui ont grandi avec le jeu vidéo et qui sont en train de faire ces premiers rapports parents-enfants d'éducation. Et de la même façon, je suis un petit peu au-delà de l'âge moyen des joueurs de jeux vidéo, mais de la même façon, j'ai grandi avec toute la culture de mes parents. Mais moi, je peux ajouter à celle de mes enfants, je peux ajouter également le jeu vidéo.
Alors, on va parler de chiffres. Vous savez, c'est ce qu'on fait sur BFM Business. Le jeu vidéo, c'est un chiffre d'affaires annuel de 4,9 milliards d'euros, rien qu'en France. Pour donner un repère, toujours dans le secteur des loisirs, c'est à peu près trois fois le chiffre d'affaires annuel du cinéma en salle. C'est vraiment colossal.
Oui, c'est une énorme industrie. Mais il ne faut pas oublier que le jeu vidéo, c'est une industrie qui combine à la fois la culture, la création, mais aussi l'innovation. Et dans ce chiffre d'affaires de 4,9 milliards pour l'année 2018, il y a à la fois les jeux, mais aussi les machines qui permettent de jouer, notamment les consoles et les PC dédiés au gaming.
Alors, je le disais en titre, en introduction, le jeu vidéo est en train de connaître une profonde mutation avec le développement du jeu en ligne. On va essayer de schématiser, mais à terme, il ne sera plus nécessaire d'avoir une console sophistiquée à la maison. Il suffira de souscrire un abonnement à un fournisseur, un distributeur de jeux vidéo. Comment ça va se passer donc ?
Le jeu vidéo est extrêmement protéiforme. On voit une quantité d'expériences très diverses. Aujourd'hui, vous pouvez jouer sur votre smartphone gratuitement. Vous pouvez avoir une console de jeu chez vous ou un ordinateur extrêmement puissant qui va vous immerger dans des très grandes expériences. Et est en train d'arriver une nouvelle façon de consommer le jeu vidéo. De nouvelles façons, puisqu'il y en a plusieurs. On voit arriver des offres effectivement d'abonnement, un petit peu comme Netflix. On a tous vu le succès de ce mode de distribution. Et puis, on voit arriver de plus en plus d'offres de streaming avec l'arrivée d'un acteur majeur sur le secteur qui est Google. Et on voit de plus en plus de très très grandes entreprises comme Google, comme Apple, comme Facebook se positionner autour du jeu vidéo, ce qui montre que le secteur aujourd'hui a bien dépassé celui d'un loisir de niche, mais est un enjeu global pour toute la population.
Alors chez Google, ça va s'appeler Stadia. Chez Apple, ça s'appelle Arcade. Pour Google, ça sera lancé le mois prochain, je crois. Est-ce que ça ne risque pas, à votre avis, d'accélérer la concentration du secteur technologique autour de quelques géants et de faire disparaître les plus petits?
Les plus petits acteurs aujourd'hui du jeu vidéo sont des perles de créativité et d'inventivité. On a évidemment des très grandes entreprises qui font des choses merveilleuses, qui font tous ces blockbusters que tout le monde attend, par exemple à la Paris Games Week cette année. Mais on a aussi ce qu'on appelle la scène indépendante, les indés, qui arrivent à proposer des nouvelles choses, à explorer des nouvelles voies. Puisqu'on est toujours un dialogue entre la création et l'innovation, les créateurs s'emparent de toutes ces nouvelles technologies dont on a parlé, la réalité virtuelle aussi, la réalité augmentée, et arrivent à proposer des nouvelles façons de jouer. C'est tout ce bouillonnement-là qu'on va retrouver ensuite et qui va irriguer les très grandes entreprises qui font le secteur.
Vous parlez des perles de la création, on en a quelques-unes en France, dans le secteur des jeux vidéo. Est-ce qu'il y aura toujours de la place pour ces entreprises dans le nouvel écosystème qui est en train de se dessiner ?
Bien sûr, parce que la clé du succès de tous les gens qui font du jeu vidéo, c'est d'avoir la plus belle offre possible, la plus belle offre de contenu. Par exemple, sur la Paris Games Week, on a au cœur du salon un stand qui s'appelle Jeux Made in France et qui met en avant tous les acteurs indépendants, tous les studios français. Et vous savez qu'en France, effectivement, on a un écosystème particulièrement riche, il y a de très belles écoles, de très beaux studios. Donc toute cette créativité-là, elle est au cœur des innovations de demain.
Comment ça va se passer pour les développeurs ? Est-ce qu'ils vont continuer à proposer leurs jeux sur toutes les plateformes, comme c'est aujourd'hui le cas à peu près sur toutes les consoles ? Ou est-ce qu'il faudra s'abonner à tel fournisseur pour avoir tel jeu en exclusivité ? Un petit peu ce qui se passe avec Netflix, qui a des exclusivités. La question vue par les parents, c'est est-ce qu'il va falloir payer plusieurs abonnements par mois pour que mes enfants puissent continuer à jouer à leurs jeux favoris ?
C'est effectivement une des questions. Le marché est en train de se structurer. Vous l'avez dit, il y a de nouveaux acteurs qui sont en train d'arriver. Donc il faut que tout cela se décante en peu, mais pour les développeurs tout ça est extrêmement positif parce que plus de plateformes égale plus de possibilités de venir proposer leurs jeux et surtout de les faire connaître au grand public.
Et leur rémunération, parce qu'on a vu avec la dématérialisation de la musique, notamment sur Spotify, que les artistes ont du mal parfois à être payés de manière décente.
Sur le modèle de la musique, on est vraiment passé d'un modèle à un autre. Le jeu vidéo a toujours été une industrie du numérique. Pour les développeurs, au contraire, plus ils ont accès à un grand public, plus forcément leur rémunération va augmenter.
Alors concrètement, dans les salons, dans les chambres d'adolescence, c'est la disparition programmée des consoles de jeux. J'ai vu que deux géants du secteur, Sony et Microsoft, avaient prévu quand même de lancer de nouvelles consoles très performantes l'année prochaine. Mais certains experts m'ont dit que ce serait peut-être les dernières.
Alors, on parle de la fin des consoles depuis déjà 2 ou 3 générations. C'est vrai que c'est un peu le serpent de mer de notre industrie. Aujourd'hui, on a encore de très belles consoles qui sont en train de en plein cycle. Et puis, on attend de très belles annonces pour l'année prochaine, pour 2020. Je pense que dans notre industrie, on a tendance à faire coexister un petit peu toutes les façons de jouer. On a parlé du smartphone, de la console, du PC. Aujourd'hui, il y a énormément de façons de jouer et pour tous les budgets. Je pense que c'est cette diversité d'expériences qui fait le succès du jeu vidéo.
Alors, on a vu par exemple les appareils photo dans la dernière décennie qui ont été phagocytés par les téléphones portables. Aujourd'hui, le téléphone portable de tous les jours, c'est l'appareil photo de tous les jours, c'est le téléphone portable. Est-ce que c'est ce qui risque d'arriver aux consoles de jeu justement ? Vous êtes en train de le dire, on joue sur son portable, sur sa tablette, parfois même sur sa télé directement ?
C'est pas un risque car très souvent les usages sont complémentaires. On voit arriver par exemple quelque chose d'aussi hybride que la Switch de Nintendo qui est là depuis quelques années et qui est une console hybride entre la console de salon et la console portable. On voit des smartphones arriver dédiés pour le gaming qui sont des petits PC surpuissants et qui permettent eux aussi d'accéder ensuite à des grands écrans. Et puis on a ces consoles de salon qu'on attend, de nouvelle génération qu'on attend pour la prochaine, qui va sans doute à la fois brouiller les cartes, à de nouveau réinventer les façons de jouer et de proposer des nouvelles expériences aux joueurs.
Alors je l'ai dit, vous êtes l'organisateur de la Paris Games Week. On va reparler brièvement de ce salon. Vous allez mettre la France à l'honneur. Parce qu'on le dit peut-être pas assez souvent, mais s'il y a des secteurs technologiques où la France est particulièrement absente, c'est pas le cas dans le jeu vidéo.
Oui, effectivement, la France est une des places fortes du jeu vidéo aujourd'hui, de la création, de l'édition. Et évidemment, sur la Paris Games Week, mais on donne toute la place à cette créativité, avec ce fameux stand Je Made in France, où tous les studios sont invités. Mais nous accueillons aussi les écoles, nous accueillons toute la filière, en fait, qui permettent de montrer à quel point c'est un secteur qui pèse, un secteur sérieux, un secteur d'avenir aussi pour l'emploi. Et puis avec des champions, on peut parler évidemment d'Ubisoft, de Focus, qui sont là et qui viennent montrer ce qui fait rêver toutes les personnes avant Noël aujourd'hui, c'est-à-dire les grandes nouveautés de la fin d'année.
Alors Ubisoft, puisque vous en parlez, nous a montré récemment que c'était une industrie à gros enjeux, c'est-à-dire on peut investir beaucoup d'argent dans un jeu et connaître des flops retentissants.
Oui, alors c'est évidemment une industrie créative dans laquelle le succès n'est jamais assuré, mais on peut tout à fait faire confiance à Ubisoft qui a un grand savoir-faire pour bien sûr arriver à avoir d'excellents résultats.
Quel est le profil du visiteur de la Paris Games Week qui se tiendra donc jusqu'au 3 novembre, porte de Versailles, à Paris ?
Alors, c'est un profil un peu plus jeune que celui du joueur de jeux vidéo, hein, qui est à 40 ans de moyenne d'âge. On est plutôt autour de 30 ans sur la Paris Games Week. C'est un salon dans lequel on voit les gens arriver en groupe, que ce soit en bande d'amis ou en famille, qui viennent pour profiter d'une journée. Et puis, nous, ce qui nous intéresse, c'est de susciter leur curiosité en leur faisant découvrir des choses auxquelles ils ne s'attendent pas. On a, par exemple, un stand qui s'appelle l'Africa Corner et qui rassemble des studios venus de tout le continent africain, ou alors le Centre Pompidou qui vient cette année proposer une expérience de jeu autour de l'art moderne et contemporain.
De mémoire, c'est plutôt un public masculin.
Alors, on est à peu près à 30% de femmes, donc ça se féminise, mais effectivement, il reste encore du travail à faire.
Ça ne représente pas le profil tel qu'il est montré par cette étude de médiamétrie.
Bien sûr, c'est un enjeu pour nous de féminiser et surtout de faire venir toutes les familles à la Paris Games Week.
Emmanuel Martin, merci d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes délégué général du syndicat des éditeurs de logiciels de loisirs et organisateur de la Paris Games Week. Dans un instant, on fait un point sur l'actualité sur BFM Business.
BFM Business, midi, l'heure H. Stéphane Pedrazzi.
La suite de l'heure H sur BFM Business, il est 12h30. Le rappel des titres de l'actualité avec Thomas Asportas.
Et les élections anticipées en Grande-Bretagne se précisent puisque le leader des travaillistes, Jeremy Corbyn, vient d'annoncer qu'il soutenait la tenue de ces élections. Boris Johnson va retenter sa chance cet après-midi après avoir essuyé un échec hier, justement du fait de l'abstention des travaillistes. Mais cette fois-ci, donc, ça devrait passer. La BBC affirme que le scrutin aurait lieu le 11 décembre. Et puis, vous l'avez vu hier, les Européens ont approuvé un troisième report du Brexit au 31 janvier 2020, au plus tard cette fois-ci. En France et en attendant la publication demain de la première estimation de croissance au troisième trimestre, l'INSEE nous dit ce matin que la confiance des ménages est restée stable au mois d'octobre après 9 mois consécutifs de hausse. Cela étant dit, quelques indicateurs se sont dégradés comme la capacité d'épargne ou la situation financière future. Les députés votent tout à l'heure le budget 2020 de la Sécu, un budget marqué, vous le savez, par un gros retour des comptes dans le rouge, avec un déficit supérieur à 5 milliards d'euros l'année prochaine. Les dépenses de santé seront divisées par 2 par rapport à leur progression naturelle. Agnès Buzyn présentera par ailleurs courant novembre un plan de soutien aux hôpitaux. plutôt. Dans l'actualité des entreprises, Boeing joue gros tout à l'heure face au Congrès américain. Le directeur général de l'avionneur est entendu par les sénateurs américains un an jour pour jour après le crash du vol de la compagnie indonésienne Lion Air. Et le directeur de Boeing devrait faire son mea culpa et reconnaît des erreurs pour la première fois depuis le début de la crise du 737 MAX. Dennis Muilenburg va aussi tenter de convaincre que l'avion est redevenu sûr après les améliorations apportées par Boeing. Airbus, en revanche, pourrait rafler un très gros contrat auprès de la compagnie aérienne Indigo. Plus de 33 milliards de dollars au prix catalogue pour plus de 300 avions monocouloirs de la famille des A320neo. Indigo et Airbus ne commentent pas cette information donnée par Reuters. Du côté des publications, Orange affiche un chiffre d'affaires en hausse de 0,8% au troisième trimestre et ce sont clairement l'Afrique et le Moyen-Orient qui ont porté le groupe avec une croissance supérieure à 7,5%. En revanche, la situation est plus compliquée en France avec un léger recul de l'activité, surtout en Espagne, où les ventes ont reculé de 2,5% à cause de la guerre des prix. Google, de son côté, paye cher ses efforts de diversification. Le leader mondial de la pub en ligne a vu son bénéfice reculer de 23% au troisième trimestre à cause une nouvelle fois d'une très forte hausse de ses dépenses, un plus 25% les trois derniers mois. Google devrait notamment recruter plus de 20 000 personnes cette année. Cela étant dit, l'activité se porte toujours aussi bien avec un chiffre d'affaires sur le trimestre de 40,5 milliards de dollars, en hausse de 20%. Sinon, l'introduction en bourse du siècle se précise. C'est en tout cas ce qu'affirme Reuters, c'est la télévision saoudienne pour qui Aramco devrait annoncer ce dimanche 3 novembre le lancement de cette introduction en bourse. Pour rappel, on parle d'une opération qui pourrait valoriser l'entreprise autour des 2 000 milliards de dollars. Le prix de l'action sera annoncé le 17 novembre, la souscription lancée le 4 décembre et la cotation de Saudi Aramco démarrera le 11 décembre. En attendant, cette IPO, l'Arabie Saoudite ouvre les portes aujourd'hui de son fameux Davos du désert, un an après une édition 2018 boycottée de toutes parts, en pleine crise Jamal Khashoggi. Rien de tel cette année, avec notamment le retour des Américains et notamment la présence du secrétaire au Trésor Steven Mnuchin. Seront aussi présents le Premier ministre indien Narendra Modi et le président brésilien Bolsonaro, et puis côté entreprise, des patrons de Blackstone ou encore de SoftBank. L'industrie de la cigarette électronique continue de souffrir. Le leader américain du secteur, la marque Juul, va supprimer des emplois d'ici à la fin de l'année, 500 postes, d'après le Wall Street Journal. Vous savez que la cigarette électronique est dans le collimateur des autorités américaines avec la multiplication ces dernières semaines des problèmes de santé liés à ces produits. Juul avait déjà annoncé il y a une dizaine de jours la suspension de la commercialisation de certains de ces produits. Et puis pour finir, ça va toujours aussi bien pour SMCP, la maison mère de Sandro, Maj ou encore Claudie Pierlot. La croissance des ventes a dépassé les 10% au troisième trimestre et c'est clairement grâce à l'international, plus 24% en Asie-Pacifique, plus 12% en Europe hors France et plus 11% dans la région Amérique. SMCP a ouvert 107 magasins sur les 12 derniers mois. BFM Business, midi 34. On retourne sur les marchés à la mi-journée pour vous donner le CAC 40 qui est à l'équilibre à 5728 points, toujours au plus haut de l'année. L'euro-dollar, quant à lui, cède un petit peu terrain. On abandonne 0,16%. 1 euro s'échange pour 1,1080 $.
Merci Thomas. Tout de suite, notre invité.
BFM Business, midi, leur H. L'invité.
Surfer sur Internet à bord des avions, c'est déjà une réalité. En revanche, la qualité de la connexion en termes de débit et parfois même de stabilité laisse encore à désirer. Eh bien, ce sera bientôt de l'histoire ancienne. Eutelsat a annoncé ce matin la commande d'un nouveau satellite qui permettra de proposer des connexions haut débit dans les transports aériens, mais également dans les transports maritimes. Et on va en parler avec Rodolphe Belmer, le directeur général d'Eutelsat. Bonjour.
Bonjour.
Vous avez annoncé la commande de ce nouveau satellite ce matin. Il s'appellera Eutelsat 10B. Lancement prévu en 2022, mise en service en 2023. Expliquez-nous.
Oui, on a annoncé ce matin la commande d'un très gros satellite qui est destiné à amener du très haut débit pour les lignes aériennes et pour les compagnies maritimes en Europe. Donc un satellite qu'on va positionner au-dessus de l'Europe et qui va pouvoir amener des services au-dessus de l'Atlantique et jusqu'à Dubaï à peu près, donc pour l'ensemble des compagnies aériennes qui volent sur ces routes-là.
Pour les liaisons avec l'Asie, il faudra donc changer d'opérateur en cours de route.
On a aussi des satellites qui couvrent l'Asie, mais aujourd'hui, le satellite tout nouveau qu'on annonce et qui est extrêmement puissant, qui va nous permettre de densifier la qualité du service au-dessus de l'Europe, c'est un satellite en fait qui vise à permettre l'expansion du marché européen de la connectivité dans les avions. L'Europe est un peu en retard sur ce sujet-là. Les États-Unis ont montré la route depuis assez longtemps. Il y a à peu près 90% des avions aux États-Unis qui proposent déjà de la connexion du Wi-Fi à bord des avions pour les passagers. C'est en train d'arriver en Europe et en fait ça va arriver en Europe avec un service qui va être très rapidement de très bonne qualité et permettre une très bonne connexion Wi-Fi meilleure que celle que vous décriviez à l'instant.
Alors c'est un gros satellite, hein, plus de 5 tonnes, ça représente quand même déjà un beau bébé. Quel est le montant de l'investissement ?
Le montant de l'investissement, on ne le donne pas précisément, mais on parle d'environ 300 millions d'euros, hein, c'est l'ordre de grandeur. Pour le satellite, le lanceur et l'assurance, en fait, c'est un programme complet dont il faut parler, et donc c'est l'ordre de grandeur à peu près. Et c'est un satellite très gros, parce qu'il pèse 5,3 tonnes, alors que c'est un satellite qui est électrique, c'est-à-dire qu'il emporte pas de carburant pour le maintenir à poste. Ça veut dire que c'est sa mission télécom qui pèse 5,3 tonnes, grosso modo.
C'est-à-dire que quelques batteries.
C'est une énorme mission télécom, voilà, qui est très capacitaire.
Alors que dans un satellite traditionnel, il y a une partie du poids qui est dédiée au carburant. Alors, c'est pas Eutelsat, hein, qui va commercialiser directement ses connexions télécom au débit aux compagnies aériennes. Vous avez signé un contrat avec Gogo, c'est un fournisseur mondial de connexions au débit dans les avions.
Oui, nous en fait, on est un opérateur de réseau, on amène les réseaux télécom pour fournir des services là où les opérateurs télécom terrestres, comme Orange par exemple, ne savent pas aller. C'est ça notre métier. Ensuite, on vend ces services à des agrégateurs, des distributeurs de services. Et dans les avions, vous avez des grandes compagnies mondiales comme Gogo, comme Global Eagle, comme Panasonic, qui sont spécialisées dans la fourniture de services, ou Thales Avionique, qui sont spécialisées dans la fourniture de services dans les avions. Donc, c'est eux qui vous amènent les équipements pour que vous puissiez regarder vos films, par exemple, et maintenant les équipements qui amènent du Wi-Fi.
Il est prévu que Gogo ait l'exclusivité. Ou vous êtes ouvert à...
Non, on va annoncer dans les heures qui viennent, je ne peux pas encore l'annoncer aujourd'hui parce que la signature n'est pas encore faite formellement, mais un autre partenariat du même style, en fait avec un autre agrégateur de services. Ce que ça montre en réalité, c'est qu'il y a une demande très forte sur l'Europe, avec des clients qui sont prêts à signer avant même l'entrée en service du satellite et à s'engager dans des volumes de commandes assez importants. Le satellite, on annonce aujourd'hui sa commande, c'est-à-dire qu'il va rentrer en fabrication dans les semaines qui viennent.
Chez Thales Alenia Space.
Il sera livré en 2022, et malgré ça, malgré la distance qui nous sépare de son entrée en service, les clients réservent de la capacité aujourd'hui parce qu'il y a une très forte demande en Europe qui accompagne le développement du service de connectivité dans les avions en Europe et le développement du nombre d'avions en Europe qui explose.
Quand on parle de haut débit, est-ce que ce sera vraiment du haut débit qui permettra notamment de regarder des vidéos en ligne? Est-ce qu'il y aura, par rapport à ce qu'on connaît aujourd'hui, un effet waouh, comme on dit en marketing?
Alors nous, on est capable d'amener des services par avion qui sont très capacitaires et donc qui permettent aux passagers de regarder de la vidéo, de streamer de la vidéo, comme on dit trivialement, sur Internet. On sait faire ça. Ensuite, le calibrage du produit, il est décidé par chacune des compagnies aériennes en fonction de l'investissement qu'elles veulent mettre dans ce genre de service.
Mais aujourd'hui, la limite, elle est technique.
Aujourd'hui, la limite est technique. Principalement parce que les satellites d'aujourd'hui ne savent pas vraiment concentrer suffisamment le débit et amener suffisamment de débit par avion. Avec les satellites qui arrivent aujourd'hui, enfin qui vont arriver demain, notamment celui dont on annonce la commande aujourd'hui, on sera capable d'amener plusieurs centaines de mégabits par seconde dans les avions, ce qui permettra d'amener un service de qualité, un peu comme à la maison dans les avions. Mais encore une fois, c'est la compagnie aérienne qui choisira le service auquel elle souscrira.
Et sans entrer trop dans les détails techniques, mais qu'est-ce que cette nouvelle génération de satellites, et le vôtre en particulier, fera que les anciens ne savaient pas faire, justement pour amener du haut débit dans les avions?
En fait,
c'est la mobilité.
Le problème, c'est la mobilité, et le problème, c'est la concentration de la capacité dans un point qui est tout petit. Un avion, vu de l'espace, c'est minuscule. Et donc, en fait, il faut concentrer la capacité télécom dans un point qui est tout petit. Ce que savent faire les satellites d'aujourd'hui, c'est concentrer leur capacité sur une zone qui est assez faible et donc amener beaucoup de capacité à un endroit donné. Et c'est ça les progrès qui sont faits. Ils sont faits par la technologie et ils sont faits aussi par l'utilisation de bandes de fréquences de plus en plus élevées qui permettent des concentrations de plus en plus fortes.
Est-ce que vous avez déjà choisi le lanceur de ce satellite? Ce sera Arianespace avec qui, je crois, vous avez déjà un accord, ou est-ce que ce sera un concurrent?
Alors nous, on travaille traditionnellement avec plusieurs lanceurs. On travaille principalement avec Arianespace qui réalise à peu près la moitié de nos lancements, un peu plus que la moitié de nos lancements, mais on s'attache aussi à travailler avec d'autres lanceurs de manière à stimuler la concurrence sur ce marché. On travaille avec SpaceX et on travaille avec Proton et on va être les premiers probablement à travailler avec Blue Origin, donc le lanceur d'Amazon. Et donc là, le lanceur qui lancera ce satellite-là n'a pas été assigné encore.
Est-ce que la taille du satellite vous limite dans le choix du lanceur? Plus de 5 tonnes, ça, tout le monde n'est pas capable de lancer, de mettre en orbite un satellite de plus de 5 tonnes.
Oui, mais avec les lanceurs avec lesquels on travaille, ça, vous avez raison dans le principe, mais avec les lanceurs avec lesquels on travaille, ils sont tous capables d'envoyer un satellite de 5 tonnes en orbite géostationnaire.
Plus proche de nous...
En orbite de transfert, en fait.
Pardon. Oui. Plus proche de nous, dès l'an prochain, vous allez également déployer une constellation de 25 nanosatellites pour les objets connectés. Et vous avez d'ailleurs, chez Eutelsat, pour ambition de devenir une société leader dans l'Internet des objets. Qu'est-ce qui va se passer? Ce sera concurrent des réseaux 5G ou est-ce que ce sera complémentaire?
Alors nous, notre stratégie, c'est de compléter les réseaux télécoms. C'est ce qu'on fait pour l'Internet, on vient d'en parler.
Appelle la brique, c'est ça? La brique complémentaire.
Oui, nous, ce n'est pas les mots qu'on emploie, mais je vous l'accorde, ce mot-là. Donc on est, disons, la brique complémentaire au réseau télécom terrestre. On amène les services qui ne savent pas produire dans des zones difficiles pour eux. Donc, on le fait avec l'Internet, c'est ce qu'on vient de décrire à l'instant. Et on va le faire aussi avec l'Internet des objets, donc avec l'IoT, où on va amener des services permettant de connecter les objets de façon très facile et très peu coûteuse aux endroits du globe où les opérateurs terrestres ne peuvent pas aller, ne souhaitent pas aller ou ne peuvent pas aller parce que c'est trop compliqué pour eux. Donc les déserts, les zones montagneuses, les mers, les airs.
On parle de quel type d'objet professionnel essentiellement?
Aujourd'hui, étant donné les coûts de la technologie, on parle d'objets qui sont assez coûteux. Donc on parle de pipelines par exemple, qui sont connectés par satellite. Demain, avec les concepts technologiques qu'on développe, et donc avec la constellation dont vous venez de parler, qui s'appelle Hello, on va avoir une couverture globale avec des prix de connexion par objet qui vont être très faibles, de l'ordre de quelques euros, moins de 10 euros par objet et par an, ce qui permettra d'envisager de connecter des objets qui sont moins coûteux que les objets d'aujourd'hui. Et par exemple, il y a des usages qu'on est en train d'envisager qui sont assez amusants. On va pouvoir connecter des troupeaux de bétail. On va pouvoir connecter. Il y a plein de zones dans le monde où l'élevage se fait de façon extensive, donc les troupeaux sont laissés en liberté. Il y a des millions de têtes, et en fait, les assureurs ne savent pas où sont ces têtes et si elles sont encore en bonne santé ou pas. Et on va pouvoir pucer et connecter par satellite toutes ces têtes de bétail, parce que si vous versez 10 euros par an pour la connexion, ça vaut largement le prix de l'assurance.
Alors c'est Big Brother, parce que maintenant on ne pourra plus se cacher.
On n'est pas obligé de vous pucer non plus, mais si vous souhaitez qu'on vous puce, on sera où vous êtes à tout instant.
Techniquement, c'est une possibilité. Voilà. Vous parlez de la réduction des coûts de connexion, du coup ce n'est pas un service qui va être réservé aux professionnels, ce n'est pas uniquement du B2B.
Ah, si, ce sera du B2B parce que il faut ensuite collecter les données et les traiter, et donc ça demande un peu de capacité technologique qui est pas, en tout cas à court terme, à disposition des individus.
Les experts nous disent que l'Internet des objets, ce sera la prochaine grande révolution et le prochain grand relais de croissance. C'est vrai aussi pour votre secteur d'activité? Aujourd'hui, c'est minime en termes de chiffre d'affaires. Je crois que vous faites 65% de votre chiffre d'affaires avec la télévision.
Exactement. Aujourd'hui, l'Internet, c'est tout petit, ça fait 8%, et la connectivité, ça fait presque zéro. La connectivité des objets, pardon. Mm-hmm. L'Internet des objets. Demain, ce qu'on pense, c'est que la croissance de notre groupe va être tirée très fortement par l'Internet, et à partir du milieu de la prochaine décennie, de l'Internet des objets, dont on pense effectivement que ça va être la prochaine révolution télécom, portée par la 5G et portée par les constellations en orbite basse comme celles qu'on développe.
Eutelsat est un grand groupe français et européen. Vous faites partie de la vitrine technologique européenne, aux côtés bien sûr d'autres sociétés. C'est important de communiquer comme vous le faites aujourd'hui, au moment où on a l'impression que l'Europe est un petit peu en perte de vitesse par rapport, je pense notamment au New Space américain.
Mais nous, on ne pense pas du tout que l'Europe est en perte de vitesse. Et d'ailleurs, le satellite qu'on commande aujourd'hui, c'est un satellite fabriqué par Thales Alenia Space, donc qui est un groupe français, disons franco-italien. Le très gros satellite qu'on a commandé juste avant, qui s'appelle Connect VHTS, qui va être le satellite le plus puissant au monde, qui sera lancé en fin 2022, c'est aussi un satellite qui est fabriqué par Thales Alenia Space, donc encore une fois des Européens. La plupart de nos lancements sont faits par Ariane, je l'ai dit tout à l'heure. Donc nous, on ne pense pas du tout que l'Europe est à la traîne. On a un petit peu un tropisme naturel à l'autocritique, hein, qui est très fort chez nous, et peut-être très français. Ce qu'on voit dans les faits, c'est que l'Europe est un leader mondial dans l'industrie spatiale et reste aux premières loges mondialement. Ce qui est vrai, c'est que le leadership de l'Europe est un petit peu chahuté par les entrepreneurs du New Space qui sont financés très abondamment par la Silicon Valley et qui effectivement s'érigent comme de nouveaux concurrents pour l'industrie spatiale française, mais qui est très solide et qui, de notre point de vue, gardera des places prééminentes dans le secteur mondialement.
Alors pour les non-initiés, on va le rappeler, le New Space, ce sont toutes ces entreprises du secteur spatial aux États-Unis, secteur privé, qui souhaitent développer un accès low cost à l'exploration spatiale. On donne quelques noms. SpaceX, c'est la société d'Elon Musk, de Blue Origin, celle de Jeff Bezos, le patron d'Amazon. Il y a aussi Virgin Galactic. Pour vous, ce New Space, ça représente quoi? De nouvelles opportunités ou un risque de voir une concurrence de plus en plus vive?
Disons que l'intensification de la concurrence dans le secteur spatial, c'est une bonne chose à mains égards. D'abord, ça fait baisser les prix de la technologie, donc ça c'est une bonne chose pour nos actionnaires.
Pour le lancement.
Pour le lancement et aussi pour les satellites, qui bénéficient aussi de cette concurrence technologique. Deuxièmement, ça permet l'émergence de nouveaux services. Et un accès à l'espace plus simple permet le développement de nouveaux services qui sont bénéfiques pour le consommateur. Je parlais tout à l'heure de notre constellation en orbite basse qui permettra de monitorer des objets, de suivre des objets partout dans le monde et donc d'amener des services de connectivité qui sont inexistants aujourd'hui. On pourra suivre des gilets de sauvetage, on pourra suivre des vaches, on pourra suivre votre chien, donc on pourra suivre tout un tas d'objets ou d'animaux qu'on ne savait pas suivre aujourd'hui, donc des nouveaux bénéfices. Et puis enfin, ça stimule l'innovation, et ça aussi c'est une bonne chose. Ce qu'il faut néanmoins, là où il faut être un petit peu plus mesuré, c'est que il faut être attentif à ce que cette concurrence se fasse à armes égales. Aujourd'hui, on a un investissement des États qui est sans commune mesure du côté américain et chinois et du côté européen. Le secteur spatial européen repose grandement sur le marché commercial, le marché privé, sur des clients comme nous, comme Eutelsat. Le marché américain, contrairement à ce qu'on pourrait penser, et encore plus chinois, mais là on s'en doute, repose beaucoup sur les subventions de l'État.
Avec des applications militaires
qui sont financées très abondamment par le département de la défense par exemple américain, et là ça peut créer à terme, si l'Europe n'y prend pas garde, un déséquilibre concurrentiel.
Il faudrait que l'Europe change de politique.
Non, il faut juste que l'Europe soit consciente que certains secteurs sont stratégiques, souverains, qui sont l'objet d'une lutte géopolitique très importante, et qu'il faut se donner les moyens qu'on a pour alimenter notre industrie et ses efforts de recherche et de développement. On a les meilleurs ingénieurs du monde dans le spatial et dans l'aéronautique en général en Europe. S'ils ont des budgets qui sont compétitifs, ils arriveront à rester les meilleurs du monde.
Pourquoi est-ce que la France n'a pas d'équivalent du New Space? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas d'acteurs privés majeurs dans cette conquête spatiale de demain?
Mais je ne dirais pas ça. En fait, la structuration de l'écosystème industriel aux États-Unis n'est pas la même qu'en Europe. En Europe, l'industrie spatiale est structurée autour de quelques grands groupes qui eux-mêmes font des recherches de R&D, enfin des efforts de R&D et des développements très importants. Des groupes comme Airbus Defence and Space, Thales Alenia Space, par exemple, pour citer les deux plus gros d'entre eux qui se trouvent être français. Et tous les efforts, par exemple, de développement de nanosatellites sont faits à l'intérieur de ces très grandes sociétés européennes. Aux États-Unis, ces efforts sont développés par des petites sociétés, par des start-up, et qui donc sont très visibles en tant que tels. Mais on parle de modes de financement de la R&D qui sont très différents. Des capitaux investis dans les start-up aux États-Unis, des capitaux investis en interne dans des conglomérats en Europe. Mais pour l'instant, on ne peut pas dire qu'il y a un modèle qui est plus efficace que l'autre.
L'Europe n'est pas en train de se faire marginaliser?
En tout cas, en tant que praticien du secteur, en tant que premier client européen du secteur, nous on voit que l'Europe est tout à fait en ligne avec ses concurrents, et que les satellites de télécom et les lanceurs sont développés par les Européens aujourd'hui, sont très compétitifs.
Vous allez participer à une réunion de l'Agence spatiale européenne en décembre, je crois. Quel est l'enjeu de cette réunion?
Cette réunion est assez importante. C'est une réunion qui vise à définir les grandes lignes budgétaires des investissements de l'Agence spatiale européenne. Donc ça va guider la politique d'investissement et donc d'innovation du spatial européen dans les prochaines années. Et nous, en tant que client, évidemment, de ce secteur spatial, premier client commercial, on est très concerné par l'allocation de ces budgets. On n'en profite pas nous-mêmes, mais nos fournisseurs en profitent, et indirectement, nous-mêmes en profitons, ainsi que nos clients.
Est-ce qu'on y discute aussi des options stratégiques? ça rejoint un petit peu ce qu'on disait à l'instant, mais on a l'impression que l'Europe a du mal à saisir les grands enjeux technologiques. Si on regarde Internet, par exemple, l'Europe a raté le train. Il n'y a aucun acteur Internet à l'échelle planétaire qui est européen. Les Google, les Facebook, ils sont tous américains.
Là, on parle dans ce genre de réunion de l'Agence spatiale européenne. Effectivement, ce sont des réunions qui sont assez stratégiques, puisqu'en fait, ce sont des plans pluriannuels d'investissement ou de priorisation d'investissement dans certaines aires technologiques qui vont servir au développement et à la compétitivité par l'innovation de l'industrie spatiale européenne. Donc, ce sont tout à fait des enjeux qui sont stratégiques et pas budgétaires au sens comptable du terme.
Est-ce que la nouvelle génération de responsables politiques, je pense notamment à Emmanuel Macron, sont plus sensibles que leurs aînés à ces questions-là ?
Aux questions de la politique
industrielle ? De technologie, d'importance d'investir aujourd'hui dans ce qui fera peut-être notre valeur ajoutée demain ?
Moi, j'ai l'impression que notre président est très sensible à ces sujets-là et très attentif à ces sujets-là. J'ai l'impression aussi que, historiquement, les dirigeants français ont toujours été très, très attentifs et très investis dans la politique industrielle française. Donc, c'est un peu une tradition de l'État français qui est portée encore aujourd'hui par notre président actuel.
La France a proposé la candidature de Thierry Breton au poste de commissaire européen. Thierry Breton, on le rappelle, ancien ministre de l'économie, ancien patron de France Télécom, ancien patron de Thomson et actuel PDG de Atos. Certains nous disent on a peut-être un conflit d'intérêts puisque Atos perçoit des subventions européennes. Pourtant, je vais me faire l'avocat du diable, mais Thierry Breton connaît bien la technologie et ce serait peut-être une bonne idée d'avoir en charge du portefeuille de l'industrie et du numérique quelqu'un qui connaît le métier.
Moi, je pense que Thierry Breton ferait probablement des merveilles à ce poste et que ce serait probablement un honneur pour la France qu'il accepte de prendre un poste avec autant de responsabilités et autant d'impact pour la politique industrielle et numérique du continent. Donc, moi, mon avis, c'est que si on a la chance d'avoir un grand patron avec l'expérience et le calibre de Thierry Breton qui accepte de remplir cette mission au service du bien commun, c'est plutôt quelque chose dont il faut se réjouir. Que l'objet de critiques.
D'autant que, je crois, il diviserait son salaire par 10. Donc ça veut dire pour lui aussi, à titre personnel.
Très probablement, je ne connais pas son salaire, mais c'est assez probable. Donc je pense qu'il faut le prendre comme tel. Il faut plutôt le remercier de son investissement et de la mission qu'il accepte de prendre plutôt que de le critiquer sur des sujets qui, à mon avis, sont parfaitement... Pour le peu que j'en sache, évidemment, je ne suis pas informé, mais qui m'ont l'air tout à fait marginaux.
Est-ce que, vous parliez tout à l'heure de tropisme, est-ce qu'on se met trop de limites, justement, en Europe ? On a la chance peut-être d'avoir un grand patron du numérique qui accepterait de jouer le jeu au niveau européen et on est en train de se poser beaucoup de questions.
Je pense qu'il ne faut pas non plus spéculer sur l'avenir. On verra ce que les auditions donnent, mais moi j'ai l'impression que le calibre, l'expérience, la notoriété, le talent de M. Breton font que, selon moi, il devrait passer les auditions et que les questions qui sont de conjoncture en ce moment vont probablement passer assez rapidement.
Une dernière question, le Brexit, qui tôt ou tard scellera peut-être la sortie donc, de la Grande-Bretagne de l'Union européenne. Qu'est-ce que ça va changer pour l'industrie aéronautique ? La disparition, enfin la sortie d'un pays avec un budget important ?
Je vais vous faire une réponse qui est un petit peu classique, vous devez sûrement entendre souvent en ce moment. Ça dépend un peu de la forme du Brexit et des accords de sortie qui vont encadrer ce Brexit. En ce qui concerne l'industrie spatiale et aéronautique en général, le Royaume-Uni est intégré à la chaîne de production européenne. C'est-à-dire que les satellites européens, les lanceurs européens, les avions européens sont construits partiellement, souvent dans des usines et dans des centres de production au Royaume-Uni. Et donc il est important que post-Brexit cette part significative de la chaîne de production puisse continuer à être intégrée au système de production européen.
Merci beaucoup, Rodolphe Belmer, le directeur général d'Eutelsat. Merci d'être venu avec nous. Donc, on
merci
pourra d'ici quelques années surfer en haut débit dans les avions. Et ceux qui prendront l'avion à ce moment-là essaieront de penser à vous. Lancement donc du satellite Eutelsat 10B prévu en 2022, mise en service en 2023. Et donc, un accord qui a été signé avec Gogo, qui est un fournisseur mondial de connexion haut débit à bord des avions. Dans un instant, vous retrouverez Nicolas Dose et ses experts. Quant à nous, on se retrouve demain midi pour l'heure H. Très bonne journée sur BFM Business. We'll be right back.